Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Pour comprendre notre place dans l'univers et donner un sens à notre vie, il est essentiel de connaître l'origine de toute chose.
C'est la raison pour laquelle, lors de cette nouvelle série de discussions, nous allons consacrer du temps à étudier le tout premier chapitre du livre de la Genèse. La Genèse elle-même constitue le premier livre de la Bible.
Nous allons donc écouter un extrait de Genèse chapitre 1. Ensuite, Yann poursuivra ses discussions en compagnie de son invité Robert.
Et Dieu dit que la terre se recouvre de verdure, d'herbes portant sa semence, et d'arbres fruitiers produisant du fruit selon leur sorte, portant chacun sa semence partout sur la terre. Et ce fut ainsi. La terre fit germer de la verdure, de l'herbe portant sa semence selon sa sorte, et des arbres produisant du fruit selon leur sorte, portant chacun sa semence. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, puis un matin. Ce fut le troisième jour. Et Dieu dit que les eaux foisonnent d'une multitude d'animaux vivants et que des oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Alors Dieu cria les grands animaux marins et tous les êtres vivants qui se meuvent et foisonnent dans les eaux selon leur sorte et tous les oiseaux ailés selon leur sorte. Et Dieu vit que c'était bon et il les bénit en ces termes. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les eaux des mers. Et que les oiseaux aussi se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, puis un matin, ce fut le cinquième jour. Et Dieu dit, que la terre produise des êtres vivants selon leur sorte, des bestiaux, des reptiles et des insectes, et des animaux sauvages selon leur sorte. Et ce fut ainsi.
Merci. Vous venez d'écouter Genèse chapitre 1, versets 11 à 13 et 20 à 24. Et le moment est venu d'accueillir Robert. Bonjour.
Bonjour Yann, et bonjour à tous.
La dernière fois, nous avons parlé de la création du soleil, de la lune et des étoiles. Et aujourd'hui, nous allons plutôt parler de celle des plantes et des animaux, me semble-t-il.
C'est exact, Yann. Nous venons de lire en Genèse chapitre 1 le récit relatant la création des plantes et des animaux, vivant soit dans les mers, soit sur la terre ferme. Et nous allons y réfléchir tout en adoptant le même raisonnement utilisé que lors des émissions précédentes. Vous souvenez-vous duquel, Yann ?
Oui, Genèse 1 représente essentiellement un traité écrit pour condamner l'idolâtrie, car ce chapitre prouve qu'il n'existe qu'un seul Dieu, qui de plus est le créateur de toutes choses. Nul ne doit donc considérer les éléments de la création comme des dieux ou investis de quelconque pouvoir spirituel. Dieu seul est digne de notre adoration et notre confiance.
Merci, Yann. Oui, Genèse 1 a été écrit il y a bien plus de 3000 ans de cela, à une époque où le peuple de Dieu vivait entouré de nations idolâtres. Certaines de ces idoles étaient les soi-disant dieux de la nature. Ils représentaient parfois des animaux ou des arbres ou encore d'autres plantes. De plus, ces idoles étaient souvent fabriquées à partir du bois, ou d'autres substances naturelles. Et voilà que Genèse chapitre 1 nous informe que Dieu a créé toutes les plantes et tous les animaux. On n'y trouve aucune mention que ces créatures sont des dieux, ni qu'elles sont dotées de quelconque pouvoir spirituel. Du coup, il est vain de chercher auprès de ces idoles ce que Dieu seul peut accorder. De plus, et nous y reviendrons lors d'une émission future, Genèse 1 nous informe que l'Éternel a investi les hommes et les femmes du pouvoir de régner sur la création. Nous ne devons donc pas nous courber devant une créature, quelle qu'elle soit, et devenir son esclave. Genèse 1 nous enseigne même que seuls les hommes et les femmes ont été créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire qu'ils sont dotés, entre autres, d'une véritable dimension spirituelle. Or, si seul l'être humain est investi de spiritualité, combien est-il vain qu'il cherche dans la nature un quelconque pouvoir spirituel, à travers soit les plantes, soit les animaux, qui n'en possèdent aucun.
Mais Robert, est-ce que ce genre d'idolâtrie existe de nos jours ?
elle est peut-être moins répandue que dans le passé. Mais oui, dans certaines cultures, elle existe toujours. Certains craignent encore des soi-disant dieux ou esprits de la nature et cherchent à les manipuler en leur faveur ou contre un ennemi. De plus, souvent la pratique de la sorcellerie consiste à attribuer à des plantes ou à des animaux des pouvoirs surnaturels.
Mais ici, comme vous l'affirmez, les plantes et les animaux créés par Dieu ne disposent d'aucun pouvoir spirituel. Comment se fait-il alors que les gens y croient si facilement et demeurent esclaves de ces traditions?
La Bible enseigne que le diable, l'ennemi de Dieu, existe, ainsi que les esprits mauvais. Ces êtres spirituels à l'origine créés par Dieu ne peuvent donc pas être égaux à lui. De plus, ils se sont rebellés contre Dieu. Or, l'arme principale de ces esprits est le mensonge, et leur désir est d'aveugler les gens. Ils veulent les empêcher de voir et de comprendre qu'il n'existe qu'un seul Dieu et qu'il est le Créateur. Le diable et ses esprits sèment donc le mensonge dans le cœur même de nos cultures et traditions. Ils sèment la croyance que les plantes et les animaux ont des pouvoirs spirituels qu'ils peuvent être adorés et craints, ou utilisés dans le cadre de la sorcellerie. Or, ces esprits ne sont pas tout-puissants, alors que Dieu l'est. Genèse chapitre 1 nous appelle à ne plus croire à ces traditions ou coutumes idolâtres, car seul Dieu est digne de notre confiance et adoration. De plus, Dieu est bon et il désire notre bien, alors que les démons, à travers la pratique de l'idolâtrie et de la sorcellerie, répandent uniquement crainte, angoisse et malheur.
Et tout au long de la Bible, Dieu prouve qu'il est le Tout-Puissant. Il a le pouvoir de réduire à néant les soi-disant pouvoirs des idoles et de libérer les gens esclaves de ces pratiques pour leur accorder la paix et le vrai bonheur.
C'est exact, Yann. En nous dévoilant que les animaux et les plantes ont été créés par Dieu lui-même, Genèse chapitre 1 nous appelle à nous détourner de toute pratique idolâtre, impliquant bêtes ou végétaux, mais de plutôt nous attacher à Dieu, notre Créateur. Lui seul est notre libérateur. Il est réellement digne de confiance.
Merci Robert, mais abordons une question pertinente de nos jours. Car selon beaucoup de scientifiques, l'origine de toute plante et de tout animal serait obtenue suite à un long processus d'évolution. Qu'en dites-vous?
J'aimerais apporter les remarques suivantes. D'abord, la théorie de l'évolution ne correspond absolument pas avec ce que Dieu nous révèle en Genèse chapitre 1. Car il nous y affirme qu'il a créé chaque plante et chaque animal selon son espèce. Chacun a donc été créé séparément. Or, ce que Dieu a réalisé est totalement incompatible avec cette idée de l'évolution. Peut-être qu'une espèce animale peut évoluer un peu, mais certainement pas au point de devenir une autre espèce. L'autre remarque que je voudrais faire est aussi celle-ci. La théorie de l'évolution reste une théorie. Elle n'a pas été prouvée. Il demeure tant de questions que les scientifiques ne parviennent pas à résoudre, et leurs soi-disant preuves ne sont pas toujours fiables. Enfin, je pense que les gens s'accrochent à croire, malgré tout, à la théorie de l'évolution, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas admettre qu'il existe un Dieu créateur. Et s'ils refusent de croire en Dieu, la théorie de l'évolution ne peut que renforcer leur incrédulité.
Merci Robert pour ces remarques importantes. Nous prions, chers amis auditeurs, pour que vous mettiez votre foi en Dieu. Il est le seul Dieu, celui qui a tout créé. Merci Robert et à bientôt.
Merci Yann. La prochaine fois, nous parlerons de la création de l'homme et de la femme. En attendant de vous retrouver, je vous dis au revoir.
Nous poursuivons tout de suite avec notre courte méditation biblique qui, elle aussi, développe le thème de la création.
Écoutons d'abord un extrait de la lettre écrite par l'apôtre Paul aux Colossiens, chapitre 1, versets 15 et 16, que Sandre va lire. Ensuite, Étienne nous fera part de ses réflexions.
Ce fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries. les autorités, les puissances. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé.
Le Fils éternel de Dieu était présent lors de la création de l'univers et de la vie. Il y a d'ailleurs lui-même participé. Voici une vérité extraordinaire qu'affirme l'apôtre Paul à travers ces versets qui ont été lus. Jean, de même, a annoncé cette même vérité au tout début de son évangile. Puis, ce Fils éternel est venu dans le monde. Il est né dans un coin perdu de l'Empire romain, dans une région appelée la Galilée. Lorsqu'elle enfanta, sa mère, encore vierge, lui donna le nom de Jésus-Christ. Quel mystère insondable ! Dieu est devenu homme. Le Dieu créateur, éternel et puissant, s'approchant des hommes sous la forme d'un être humain, car Jésus voulait réconcilier l'humanité à Dieu. Qui, selon vous, est la personne la plus importante dans le monde ? Celle qui dirige votre pays ? Le président des États-Unis ou celui de la Chine ? Une vedette de cinéma ou de la chanson ? Votre père, votre mère ? Vous-même ? Sachons-le, Jésus, ce Fils éternel, est la personne la plus importante de l'univers. Il vous a créé et vous existez. Il vous a créé et il désire vous façonner, tout comme le potier travaille l'argile pour créer un pot. Il vous a créé et de ce fait, il est votre souverain. Vous devez vous soumettre à lui. Cette vérité paraît-elle effrayante? Si nous faisons confiance à Jésus, le Fils éternel, si nous le reconnaissons comme notre souverain, se soumettre à lui devrait nous réconforter. Mais pourquoi? D'abord, parce qu'il exerce sa souveraineté envers son peuple de façon bienveillante. Il fait preuve envers lui de miséricorde, de grâce et d'amour. De plus, l'apôtre Paul nous rappelle que Jésus-Christ est souverain sur toute chose, sur toute puissance, sur tout pouvoir, qu'il soit céleste ou terrestre. En effet, si nous sommes menacés par des puissances spirituelles, telles que des esprits démoniaques, sachons-le, Jésus est souverain, il est puissant. Nul ne peut s'opposer à lui, nul esprit maléfique ne lui résiste. De tous, il triomphe. De même, nous pouvons nous sentir menacés, exploités ou opprimés par des hommes puissants. Mais une fois de plus, le Fils est souverain. En son temps, il nous délivrera et remportera la victoire contre tous ceux qui s'opposent à lui et s'acharnent contre son peuple. Si nous nous remettons entre les mains de notre Créateur, nous aurons cette assurance d'être entre de bonnes mains. Jésus nous a créés et nous lui appartenons. Il veut notre bien. Voilà une vérité qui peut nous consoler dans un monde imprévisible et dangereux, car elle nous rappelle que Jésus est aussi le Maître souverain.
Merci Étienne de diriger nos regards vers celui que nous devons honorer par-dessus tout autre. Nous continuerons notre série sur le thème de la création la prochaine fois.
En attendant de vous retrouver, chers amis, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.